Bonjour Jean-Gilbert, bonjour aux amis, que Dieu vous bénisse. Bonjour Immacula, bonjour Gérard, bonjour Denise, soyez bénis. C'est fini l'aîné. Juste vérifier un petit truc par ici. Non, c'est fini l'aîné. C'est fini. C'est fini. Okay. Merci Gérard. Bonne journée à vous aussi. Non, c'est fini. C'est fini. Maintenant le maître il travaille. Ok? On se voit plus tard. Ok, couché. Non. Donc je suis convaincu qu'elle fait le délice de plusieurs personnes qui auront vu son minois ce matin. Voilà, maintenant elle vient de se coucher. Bonjour Rachel. Bonjour aux sœurs qui sont avec toi, la sœur Mona, la sœur Ocilia, la sœur Chantal. Bonjour Guy, sois béni. J'espère que tu vas bien. Je vais régler un petit truc par ici. Non, rien à régler. Bonjour à Marie-Marthe, bonjour à mon père, à ma mère, bonjour Gilles, bonjour Joanne. Shalom la belle-mère. Bonjour à la sœur Florio Fanluis. Il y a encore 6 ou 7 minutes avant qu'on débute ce matin. Journée pluvieuse sur le sud-ouest du Québec, particulièrement Montréal. Il y avait avertissement de pluie abondante, mais de surcroît à cela, lorsqu'on lisait les rapports de Météo Média, on y dit que le sol a tellement été irrigué à travers les dernières semaines qu'il regorge. Donc, il n'est pas capable d'assimiler l'eau qui se répand actuellement. Donc ça pourrait provoquer dans certains endroits des refoulements d'eau, voire des inondations, tout simplement parce que il y a eu trop de pluie. Je vous rappellerai que la semaine dernière, dans l'épisode d'orage très violent qu'il y a eu ici, il est tombé 6 cm d'eau en l'espace d'une demi-heure, ce qui est énorme. Et puis, je crois qu'hier et aujourd'hui, en tout cas durant la nuit, et encore ce matin en conduisant, là, c'était pas des petites averses, c'était de l'eau abondante qui coulait ou qui tombait depuis un bon moment. Voilà. Donc, il y en a qui sont sous la sécheresse en Europe, en France. Puis nous, on est sous des pluies abondantes. C'est comme ça qu'on débute l'été. Una ning barca son pa wende. Bonjour Maria. Que Dieu te bénisse. Maria, tu as un point commun avec Daphné. Vous aimez, vous semblez toutes deux, en tout cas. Daphné, je sais, toi tu sembles, je n'ai pas la confirmation, c'est toi qui me le diras, mais tu sembles aimer le petit prince comme Daphné l'aime. Moi, je suis un grand fan de Victor Hugo, des Misérables et de tous ses écrits. Daphné, elle, c'était Saint-Exupéry avec le petit prince. Et je vois beaucoup de tes publications avec le petit prince aussi. Tu as ce point commun avec Daphné. Gérard, faut pas me faire languir comme ça. J'ose même pas commencer à imaginer si au lieu de la pluie, c'était de la neige. Les gens vont se désabonner puis vont arrêter les bénédictions matinales si on en parle trop, vous et moi. Mais effectivement, si ça avait été de la neige, j'aurais été très content. Mais bon, je m'arrête là parce qu'on vient juste de débuter l'été. Et puis ma femme dit que je provoque les gens avec mes histoires d'hiver et de neige.
Emma, tranquille.
Oui. Alors, Emma a eu ses vaccins hier ou sa deuxième dose de vaccin.
Ça doit être pour ça
qu'elle est comme ça aujourd'hui. Elle a volé le show chez le véto. Toutes les techniciennes voulaient la voir, lui faire des câlins, lui donner des gâteries. Elle me fait le même coup à chaque fois qu'on va chez le véto. Bonjour Claude. Claude, je connais mes brebis. La Bible dit de connaître son troupeau. Je connais mes brebis. Je sais que si je vous parle trop de neige, vous allez trouver ça pénible. Alors, j'essaie de me taire à l'occasion sur le sujet de la neige. Yaoi, ni hao, yezuai ni. Jude, bonjour. Que Dieu te bénisse. Bernadette, bonjour. Il n'y a pas juste mes brebis qui me connaissent. L'autre jour, j'étais dans une réunion virtuelle avec différents collègues, dont des gens qui travaillent avec un ministère avec lequel je collabore aussi, qui s'appelle Prions Québec. Une amie à moi qui a grandi à l'église, en fait, quand elle était toute jeune. Et elle et son mari sont les aumôniers auprès de l'Assemblée nationale à Québec. Donc, je collabore avec eux en rédigeant des prières concernant les députés. Donc, on avait une réunion pour un travail qu'on a à faire sous peu. Et puis, elle m'a présenté effectivement comme la personne auprès de qui elle a accepté le Seigneur alors qu'elle était toute jeune. Et elle m'a présenté aussi comme celui qui avait une relation amour-haine avec l'été. Dans ma tête, je me suis dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'amour. Et haine, c'était peut-être un peu fort, mais voilà, elle m'a aussi présenté comme ça. Alors que c'est des gens de Québec. Voilà. J'ai fait exprès à la belle-mère de ne rien dire. J'avais vu la perche que vous m'aviez tendue et j'ai fait exprès de détourner la tête. Marie-André Farley, bonjour. Dalila, bonjour. Alors, on vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jérémie au chapitre 29. C'est toujours l'étude du verset 7 que nous faisons cette semaine. Bonjour Babette, bonjour Andreas. Julie, bonjour. Alors, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui nous regardent en différé plus tard dans la journée. Donc, on vous salue, vous aussi. Hier, il y avait Soraya qui me disait qu'elle avait entendu l'enseignement. Donc, comme je ne l'avais pas vu en direct, j'ai compris qu'elle nous avait regardé en différé. Donc, on te salue, Soraya. Bonjour, Nathalie. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu vas bien. Alors prions et on va débuter. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes. Moment d'exhortation, mais moment de méditation, moment d'édification. On te demande, Seigneur, d'ouvrir notre entendement, d'ouvrir nos pensées, que nous puissions effectivement recevoir de toi, avoir le cœur disposé envers ta parole, disposé envers ta volonté, disposé envers tes recommandations à notre égard. Nous voulons effectivement, Seigneur, recevoir tout ce que tu as préparé pour nous d'éternité, toutes les bénédictions que tu avais emmagasinées pour chacun d'entre nous en prévision de cette journée même, de cet enseignement-ci. Nous ne voulons passer à côté d'aucune de ces bénédictions, les recevoir favorablement et bâtir sur ce que tu nous auras enseigné aujourd'hui. Alors en toute chose, Seigneur, que ton nom soit élevé et merci, Seigneur, de nous accueillir et de nous bénir encore ce matin. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors, on vous rappelle que nous lisons dans Jérémie 29, le verset 7 cette semaine. Vous savez que demain, c'est journée fériée. C'est ce qu'on appelle la Saint-Jean ici au Québec, donc la fête nationale des Québécois. Et en vue de cela, on s'est dit qu'on allait prendre quelques instants ou quelques jours pour voir comment on se positionne par rapport à la nation dans laquelle on est placé. À prime abord, oui, ce pourrait être un passage qui s'adresse à des gens qui ne sont pas de souche, qui sont peut-être des immigrants de première, deuxième ou troisième génération. Mais ça va plus loin que ça. La Bible nous dit que nous ne sommes que des pèlerins maintenant ici-bas sur terre, ayant reconnu Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Peu importe la nation où on est établi ici-bas sur terre, nous savons que nous ne sommes qu'en pèlerinage ici, mais que notre destination et que notre identité n'est plus de cette terre, mais elle est de la Nouvelle Jérusalem, cette cité que Dieu prépare pour nous, ses enfants, et qu'il viendra établir ici-bas. Cet enseignement ne s'adresse pas simplement aux immigrants, comme moi. Je tiens à spécifier que je suis effectivement un immigrant de première génération, puisque ma famille et moi, on vient de France. Je suis arrivé tout jeune, je suis reparti à l'âge de 12 ans, je suis revenu à l'âge de 17 ans, je suis revenu pour ne plus repartir. Mais malgré toutes ces années que j'ai passées ici, bien plus nombreuses que celles que j'ai passées en France, parce qu'en France, j'ai dû passer en tout l'équivalent de 6 ou 7 ans maximum, donc 43 autres ici-bas au Québec. Mais malgré tout, je suis un immigrant de première génération. Mais on est tous, puisqu'on est en pèlerinage et on est de passage, on est tous dans le même statut. De surcroît, cela, cet enseignement s'adresse aussi à toute personne qui passerait, et ça je pense que ça s'adresse à chacun d'entre nous, toute personne qui passerait par un moment difficile, par un contexte, un environnement plus demandant, plus exigeant, voire un environnement qui est contraire ou qui est ennemi, défavorable. Donc, c'est comment se positionner dans la prière, comment se positionner dans l'attitude, comment se positionner dans le regard de notre environnement qui parfois, effectivement, peut être particulièrement désagréable. Alors, je lis pour vous Jérémie 29, le verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépendra du sien. Je répète une seule fois, tous ensemble en fait, on pourrait le faire. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. On rappelle le contexte historique très brièvement. Israël a péché contre l'Éternel, donc s'est détourné des voies de Dieu, et Dieu amène un châtiment sur la nation. Et ce châtiment, c'est pas de la grêle, c'est pas la foudre qui tombe du ciel, non. C'est un envahisseur qui vient, qui se saisit de toutes les richesses qu'on retrouve en Israël et particulièrement à Jérusalem, qui pille donc les richesses du pays, et de surcroît à cela, qui amène en captivité et en exil une partie du peuple. Qui? Ben, foncièrement, les jeunes nobles de la nation. Les jeunes hommes qui ont été formés, qui sont dans la famille royale, qui ont été bien éduqués. Donc, Babylone, le roi de Babylone, va les prendre, les amener en captivité jusque dans la capitale donc de la Babylonie, la ville de Babylone. Et ils vont servir auprès du roi. Par la suite, la chose va s'étendre sur le second empire qui va malmener Israël, et c'est l'empire d'Assyrie. Là encore, le même cas, on maintient les gens en captivité. On se rappelle du contexte aussi, des prophètes vont se lever, on est au début de la captivité, des prophètes vont se lever en disant, regardez, la délivrance de Dieu arrive bientôt, Babylone va tomber, et puis vous serez délivrés, vous serez bientôt de retour à Jérusalem. Et Jérémie, inspiré par l'Éternel et faisant cavalier seul contre les dires de ses prétendus prophètes, va se lever en disant, n'écoutez pas les prophètes, n'écoutez pas ceux qui vous disent comme quoi vous allez être délivrés sous peu, ce n'est pas le cas, c'est l'Éternel qui vous a amené en captivité, cette captivité va durer 70 ans. Cette réforme, cette réformation de la nation, de la pensée, de l'attitude du peuple, va durer 70 ans. Et Dieu ne dit pas simplement, ben regardez, vous allez être sous mon châtiment et sous ma punition pendant 70 ans. C'est vraiment une question de réforme. Et dans cette réforme, il invite le peuple d'Israël qui est en exil à Babylone de ne pas se morfondre sur son cas, de ne pas vivre dans l'abattement pendant la durée complète de l'exil, mais de s'investir positivement dans la ville de Babylone. C'est ce qu'on a vu depuis deux jours, rechercher le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et comme on va le voir demain, pourquoi? Parce que le bonheur de ces exilés dépend de la prospérité et du bonheur de la ville où Dieu les a menés. Donc, savoir avoir la bonne attitude, savoir développer la bonne attitude ou le bon comportement face aux circonstances et face aux environnements qui pourraient nous être défavorables. De nature, on est des gens qui aiment ou qui ont comme réflexe de grogner, de se plaindre, voire de s'opposer lorsqu'on nous malmène. Et ici, Dieu dit non, vous allez faire le contraire. Lorsqu'on va vous malmener, vous allez plutôt investir pour le bien de la nation. Et vous allez voir que découlant de votre attitude positive par rapport à la nation, vous serez vous aussi bénis. Soyons clairs, Dieu ne leur dit pas de pécher, Dieu ne leur dit pas d'aller à l'encontre des lois bibliques, de la pensée de Dieu, des préceptes divins. Dieu leur dit, dans tout ce qui vous est demandé, faites ce qui est nécessaire, investissez-vous, bâtissez, multipliez-vous, ne décroissez point, investissez dans la nation où je vous ai placé, et cela va faire prospérer la nation, et de surcroît à cela, vous en tirerez vous aussi profit. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Le peuple d'Israël, lorsqu'il est sorti d'Égypte, était un peuple qui était bien nanti parce qu'ils avaient travaillé, qu'ils avaient prospéré. Ils ne sont pas sortis pauvres de la nation d'Égypte, même s'ils étaient dans la servitude. Et c'est la même chose qu'on demande ici, des années plus tard, des siècles plus tard, qu'on demande encore une fois au peuple d'Israël, maintenant qui est exilé à Babylone et non plus en Égypte. Et on s'arrête aujourd'hui sur la phrase « Et priez l'Éternel en sa faveur ». Priez l'Éternel en faveur de Babylone. On pourrait s'arrêter tout simplement à une lecture de premier niveau et comprendre que Dieu dit à Israël « Voici, vous avez des ennemis, vous avez des gens qui vous asservissent, vous avez des gens qui vous malmènent, mais je vous exhorte à prier pour eux. Et ça, ça serait notre première leçon. Combien de fois on a de la misère à prier en faveur de gens qui nous malmènent. Pensez un peu. Là, on a notamment Daniel avec ses trois compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, mais on a toute une génération de jeunes gens israélites qui ont été déracinés de chez eux, qui ont été arrachés à leur famille, qui ont été amenés sous la contrainte et qui servent un roi comme des serviteurs ou des esclaves le feraient, peut-être mieux traités que les esclaves de bas niveau, puisqu'on voit que Daniel va devenir un surintendant dans la nation, idem pour des personnes comme Shadrach, Meshach et Abednego, qui vont avoir des postes d'influence. Mais malgré tout, c'est des gens qui étaient autrefois servis et qui aujourd'hui servent un roi et un roi étranger et un roi ennemi de l'Éternel. Et malgré tout, Dieu leur dit « Priez en faveur de la ville. Priez pour bénir la ville. » La grande question pour toi et pour moi, lorsque je me retrouve dans un environnement difficile, voire dans un environnement qui m'est totalement opposé, quel est mon réflexe premier? Les disciples, à un moment donné, voyagent dans certains villages et on refuse l'accès à Jésus et à ses disciples. Et les disciples disent, « Mais Seigneur, veux-tu qu'on appelle le feu du ciel, que le feu puisse descendre et les détruire? » Donc, le réflexe premier des disciples proches de Jésus était d'avoir une vengeance, une rétribution, d'exercer une violence, même spirituelle, contre les villages qui ne leur étaient pas acquis. C'est la réaction, c'est la nature humaine, pécheresse et inique que nous avons hérité d'Adam et Ève et des suites de leurs péchés, qui provoque cela chez nous. Combien de fois il est difficile de tendre la joue lorsqu'on nous a frappés? Combien de fois il est difficile d'obtempérer envers celui qui nous malmène? Non, on est plus combatif, voire vindicatif jusqu'à un certain point. On aime l'affrontement, pas parce qu'on est belliqueux en soi nécessairement, mais parce qu'on se dit on ne va pas se laisser faire. Jésus a accepté de se laisser faire, pour toi et pour moi. Et nous étions parmi ceux qui l'attaquaient. Nous étions de la même nature que ceux qui l'ont frappé, flagellé et cloué à la croix. En fait, c'est à cause de ton péché et de mon péché qu'il a été accroché à la croix. C'est parce que nous avions décidé de ne pas vivre selon ses préceptes, que lui, par grâce et par amour, a décidé malgré tout de ne pas s'opposer à nous, mais de nous témoigner amour, grâce, compassion, miséricorde, en acceptant la mort sur la croix, tel un infâme pécheur qu'il n'était pas. Jésus nous a montré tout le contraire de faire la guerre, tout le contraire de malmener ceux qui nous malmènent. Dans le Notre Père, et j'en faisais allusion hier, Jésus va dire, ou va enseigner aux disciples à prier en disant, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Il y a deux morales dans cette pensée, dans cette phrase. Un, c'est, « Ben Seigneur, si nous avons, premièrement pardonné aux autres, nous te demandons aussi à toi de nous pardonner. » Donc, si nous avons fait l'effort de remettre la dette, de remettre l'offense que quelqu'un pourrait nous avoir fait, on te demande toi aussi de nous remettre notre offense, de nous pardonner de notre péché. Mais de surcroît à cela, ça dit aussi, Seigneur, qu'il y ait une même règle pour nous que pour les autres. Ou qu'il y ait une même règle pour nous comme nous l'appliquons aux autres. Pensons à ces mots qui sont dits. Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut donc dire qu'il doit y avoir une balance. Il doit y avoir un même jugement sur nous comme nous apportons jugement sur les autres. Et là, il y en a qui doivent commencer à trembler en se demandant, est-ce que j'ai assez pardonné pour être moi-même pardonné? Je me rappelle de ce vieux chant, je vous en ai parlé à plusieurs reprises à travers les bénédictions matinales depuis maintenant 2 ans et quelques. Ce vieux chant qu'on avait l'habitude d'entonner il y a des années, qui disait « Comment peux-tu prier mon frère si tu es fâché contre ton frère ?» Dieu n'écoute la prière, Dieu n'écoute la prière si tu ne veux pas pardonner. Ça devrait nous habiter constamment. Jour après jour, situation après situation, on devrait être saisi par cette pensée que Dieu ne peut pas nous pardonner si nous n'avons pas pardonné aux autres. Que Dieu ne peut pas excuser nos péchés si nous n'excusons pas aux autres. Ou que Dieu va appliquer la même règle sur nous que nous appliquons à ceux qui nous offensent. Mon ami, mon frère, ma sœur, pardonne. Tu vas te faire du bien à toi-même. Pardonne. Il y a des choses dans lesquelles il est bon d'être égoïste. Parfois, on pardonne, pas pour défaire la personne qui nous a offensés d'un poids ou quoi que ce soit, mais on pardonne pour que nous soyons nous-mêmes en règle devant Dieu. Pourquoi vivrais-tu dans un état que tu sais à l'encontre des préceptes de Dieu, que tu sais comme ne pouvant être béni de Dieu? Pourquoi te maintiendrais-tu dans une telle situation? Ce serait tout à fait insensé de notre part. Alors lorsqu'on m'offense, je devrais avoir ce réflexe. Je devrais recourir à cette recommandation que Jésus nous faisait de pardonner à ceux qui nous avaient offensés, d'aimer notre ennemi, de tendre la joue lorsqu'on nous a frappé sur l'autre, lorsqu'on veut saisir notre manteau, de le laisser aller et de donner même un deuxième manteau. Il y a des règles comme ça qui sont pour notre bien. En fait, toutes les règles de Dieu sont pour notre bien. Le pardon est à la base pour que moi je sois en règle avec mon Seigneur. Et ici, dans ce contexte-ci, Dieu dit, bien, les personnes qui vont vous offenser ou l'environnement qui vous sera défavorable ou le contexte où je vous place qui ne vous est pas positif, je vous demande malgré tout de prier en faveur de cet environnement. Le verbe « prier » en hébreu, c'est le verbe « palal », P-A-L-A-L, palal, P-A-L-A-L, qui veut dire « intervenir et s'interposer ». Babylone est une capitale pécheresse. C'est pas en Israël. C'est pas un peuple qui craint Dieu. C'est un peuple idolâtre. Un peuple même qui va s'opposer et qui va se lever contre le peuple de Dieu et qui va malmener le peuple de Dieu. Donc le châtiment de Dieu pourrait tomber sur Babylone, ce qui va arriver plus tard éventuellement. Mais Dieu dit à Israël, pendant que vous êtes là, priez en faveur de ces personnes qui vous malmènent. Priez en faveur de cet endroit qui ne vous plaît pas. Placez-vous pour intervenir, pour vous interposer par rapport à ce châtiment qui vient. On parle souvent de ce verset dans Jérémie où Dieu dit « Je cherche un homme qui se tiendra devant moi à la brèche, qui élèvera un mur et qui se tiendra devant moi à la brèche pour intercéder en faveur du pays. Mais je n'en trouve point. » On prend souvent ça comme tout simplement quelqu'un qui va se lever pour intercéder parce que le diable attaque la nation et Dieu cherche quelqu'un qui va vouloir intercéder en faveur de la nation, comme pour la bénir. En fait, c'est pas ça. Ce verset nous dit que le châtiment de Dieu s'en vient. Et que Dieu cherche un homme qui pourrait venir se tenir à la brèche en faveur du pays pour que le châtiment divin ne tombe pas sur le pays. On a l'exemple par prédilection qui peut venir maintenant à nos pensées. C'est exactement ce que Jésus a fait. Il est intervenu pour que le châtiment contre notre péché, pour que le châtiment contre notre iniquité ne s'exerce pas contre nous, ou pour qu'il soit annulé. Jésus a accepté d'intervenir, de s'interposer entre nous, pécheurs récurrents, pécheurs condamnés et condamnables, et le châtiment de Dieu, la condamnation de Dieu. Jésus s'est positionné comme notre avocat, comme notre intercesseur. Il est intervenu en mourant et en ressuscitant des morts pour notre péché. Et nous aussi, on doit faire de même. Alors, ça prend effectivement beaucoup d'amour. Ça prend effectivement beaucoup d'abnégation. Ça prend effectivement beaucoup de compassion. Ça prend effectivement beaucoup de miséricorde de notre part. Mais ne sont-ce pas là, en fait, les fruits de l'esprit? Est-ce qu'on ne parle pas ici de la nature de Christ qui devrait se développer en nous? Lorsqu'on fait preuve de compassion, on est en train de représenter la nature de Christ. Lorsqu'on exerce de l'abnégation, on est en train d'afficher les sentiments de Christ envers ceux qui nous entourent. Donc, Palal, prier tout d'abord, intervenir. Puis, faire la médiation. C'est-à-dire que j'interviens pour stopper et j'interviens pour appeler la compassion, la miséricorde et le pardon de Dieu. On voit la chose s'exercer à travers Abraham. Lorsque Dieu lui annonce qu'il va aller détruire Sodome et Gomorre, Abraham va se lever en disant, « Mais Seigneur, s'il y avait 50 justes, est-ce que tu détruirais la ville? » Et Dieu dit, « Non, s'il y en avait 50, je ne la détruirais pas. » Il dit, « Mais Seigneur, s'il y avait 10 justes, détruirais-tu la ville? » Et l'Éternel lui dit, « Ben non, s'il y avait 10 justes, je ne la détruirai pas. » Abraham, à chaque fois, est en train de faire appel à la compassion de Dieu pour que le châtiment et la condamnation ne s'exercent pas. Et on se rend compte que des justes dans la ville, il y en aura très peu. Il y aura Lot, sa femme, et leurs deux filles avec leur conjoint. Et sur le tout, ben, on va se rendre compte que la femme de Lot va... en chemin vers l'extérieur de Sodome, va envier, va regretter la ville, va se retourner et va être transformé en statue de sel. Mais Abraham nous donne cet exemple de celui qui intervient et qui fait la médiation. Et nous devrions avoir la même attitude par rapport à notre province notamment, puisqu'on parle de la fête des Québécois demain. Ça devrait être notre position par rapport au pays, au Canada, puisque la semaine prochaine, on va fêter la fête fédérale, donc la fête du Canada. Mais ça devrait être aussi un même réflexe que nous devrions avoir pour tout environnement qui nous est hostile, que ce soit l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans notre voisinage, que ce soit dans notre palier, dans l'immeuble où on peut habiter. Que ce soit à travers la famille, que nous puissions avoir cette capacité à intervenir, à nous interposer, à faire la médiation. Et de surcroît à cela, Palal, prier, va vouloir dire intercéder ou demander. Requérir la bénédiction. C'est non seulement, ben Seigneur, avant que tu ne passes pour que ton jugement s'accomplisse, tu vas devoir me passer dessus. Ça, c'est intervenir, c'est s'interposer. Puis, c'est de dire, Seigneur, Tu es un Dieu qui est bon, tu es un Dieu qui est lent à la colère. Seigneur, pardonne l'offense. Fais preuve de patience, Seigneur, à l'égard de ceux qui nous offensent. Jésus va le faire sur la croix en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alors qu'on aurait tous mérité d'être exterminés comme ça en un claquement de doigts, en un clin d'œil, en accrochant le Messie à cette croix injustement, lui qui n'avait commis aucune faute, qui ne méritait pas la mort odieuse à laquelle on le soumettait, et lui va prier pour nous, pour toi, pour moi, pour sa génération, pour les générations futures, en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et lorsque Jésus va regarder Jérusalem quelques heures plus tôt, il va être en pleurs pour Jérusalem parce qu'il voit Jérusalem comme un troupeau sans berger. Et il va nous dire de prier pour la bénédiction de Jérusalem, de prier pour la paix de Jérusalem. On a un Jérusalem propre à chacun d'entre nous. Moi, il s'appelle Montréal, j'habite Montréal. Je suis ici, dans une ville qui ne connaît pas Jésus. Dans une ville où le péché s'élève, dans une ville où le péché progresse, dans une ville où les principes et les préceptes de Dieu sont malmenés, une ville où on ne craint pas le Seigneur, et ça c'est propre à tous les endroits où les pécheurs habitent. Donc que tu habites dans un village où il y a 200 personnes, ou que tu habites dans une ville comme Montréal où on a presque 2 millions de personnes, ben c'est idem. Tu es entouré de pécheurs qui ne craignent pas Dieu, qui ne veulent pas la progression du royaume de Dieu, qui ne voient pas à la progression du royaume de Dieu. Et Dieu te demande, le Seigneur te demande d'intercéder, de prier, de bénir cet endroit. Et ça, c'est bénir ton patron qui te malmène, c'est bénir un professeur qui te malmène ou qui se conduit injustement envers toi, c'est de prier pour des collègues de travail qui formant des coups à ton égard. C'est prier pour des employés qui te sont difficiles et qui cherchent ta perte et ton licenciement. C'est de prier pour des voisins qui te reçoivent mal et qui malmènent ton terrain. C'est prier pour des membres de la famille qui médisent à ton sujet, qui agissent mal et qui radotent à ton sujet. Ton devoir, c'est d'intervenir pour que le châtiment de Dieu soit retardé. C'est d'intervenir pour négocier, pour plaider la grâce de Dieu sur leur vie. Et c'est aussi prier, intercéder, demander la bénédiction de Dieu sur cet endroit. Quand on parle de prier l'Éternel en sa faveur, c'est trois choses en soi. Le terme « en sa faveur », en hébreu, c'est le terme « birad ». Birad. Donc « B-E-H-A-D », birad, qui veut dire « prier au nom de quelqu'un d'autre ». Les pécheurs ne peuvent pas chercher la face de Dieu. Donc nous, on cherche la face de Dieu en leur faveur. On cherche la face de Dieu en leur nom. C'est prier au profit de quelqu'un d'autre. Donc ce n'est pas prier pour notre propre bonheur, notre propre bien-être, mais c'est de prier pour le bien-être et pour le profit de quelqu'un d'autre. Mais Berad va aussi vouloir dire prier à l'insu de quelqu'un. Cette prière discrète qu'on fait où on demande la grâce de Dieu pour des gens qui sont en train de nous malmener. Je suis convaincu que c'est déjà arrivé à plusieurs d'entre nous d'être dans une situation où les gens s'opposent et nous sont férocement opposés et un élan de grâce s'empare de nous, de miséricorde, et au lieu de faire descendre ou d'appeler le feu qui descend du ciel, on dit, nous aussi, à l'instar de Jésus, « Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Pardonne-leur, Seigneur, ils ne te connaissent pas. Pardonne-leur, Seigneur, ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. » Ça devrait être notre nature de tous les jours. les gens ne nous ont pas entendus prier pour leur bonheur et on devrait le faire malgré tout. La prière n'est pas de s'afficher comme le public, comme le pharisien dans le temple, en disant « Seigneur, je suis mieux que les autres et je n'ai pas péché. Alors voilà pourquoi je peux venir prier pour ces mécréants et ces mauvais pécheurs et ces mauvais citoyens. » Non, on le fait de façon discrète, de façon privée avec Jésus. On dit « Seigneur, garde. Je sais, Seigneur, qu'il mérite effectivement châtiment. Mais je prie, Seigneur, que tu fasses fi, que tu fasses répit, que tu attendes, que tu accordes encore la chance, que tu frappes encore à la porte, Seigneur. Combien de mamans et de papas ont prié pour leurs enfants comme cela? Je suis convaincu que mes parents ont régulièrement prié pour moi pendant une certaine phase. Ils prient encore là pour moi. Mais pendant une certaine phase de mon adolescence, où je leur avais dit que si Dieu voulait m'utiliser, il devrait se battre avec moi, que je n'allais pas servir Dieu. Je suis convaincu que pendant ces années, qui ont duré 4 ou 5 ans, je suis convaincu que mes parents étaient inquiets et qu'ils priaient à mon insu, à mon égard, en ma faveur. On l'a fait en tant que parent, on le fait en tant que tonton, petit, on le fait en tant que pasteur envers des âmes qui sont en train d'être chambranlantes, envers des âmes qui même parfois s'opposent à notre travail pastoral et à nos soins pastoraux. Malgré tout, on prie pour eux. Je dis parfois à des gens, vous voyez, je suis lié à vous encore davantage qu'une épouse ou un époux, parce que si vous décidez de divorcer, vous vous dites au revoir l'un l'autre et puis vous partez ailleurs. Il dit, moi je vous marie aujourd'hui, puis même quand ça ira mal, c'est mon devoir d'être à vos côtés, c'est mon devoir de rester collé à vous et de continuer à faire mon travail et d'apporter mes soins pastoraux à votre égard, notamment à travers la prière, à travers l'intercession et si Dieu m'en donne la grâce, à travers l'enseignement qui est prodigué aussi. Alors parfois, effectivement, Dieu nous demande, en dépit des contextes qui nous sont difficiles, en dépit des contextes qui nous sont tout à fait désagréables et de façon tout à fait légitime. Je ne suis pas en train de parler de gens qui se plaignent pour rien. Non, je suis en train de parler de gens qu'on malmène de façon odieuse et qui, malgré tout, sont appelés à prier pour leur agresseur. Combien de fois on a entendu parler de l'Église persécutée, l'Église malmenée vont prier. On le voit dans l'Église souterraine en Chine. On le voyait à l'époque du régime communiste dans le bloc de l'Est où l'Église underground, l'Église souterraine, priait pour la bénédiction, pour la grâce, pour ces autorités qui les malmenaient pourtant. Les chrétiens en Corée du Nord qui vont intercéder malgré l'offense qu'il leur est faite et malgré la torture qu'ils peuvent subir, ils vont malgré tout cela intercéder en faveur de leur tortionnaire et de Kim Jong-un qui dirige la nation. On l'a vu notamment aussi à travers les barbaries qui se sont passées avec l'État islamique, Al-Qaïda ou Daesh, où des chrétiens étaient mis à mort et alors qu'on s'apprêtait à les mettre à mort, on filmait et se mettait à intercéder pour leurs tortionnaires et pour leurs bourreaux. C'est des exemples pour nous, et c'est des exemples que vous savez qui me sont très chers. J'espère être à la hauteur de ces exemples que ces frères, ces précieux frères et ces précieuses sœurs nous donnent comme exemple. J'espère être à la hauteur et d'être capable de prier pour ceux qui m'offensent d'une façon beaucoup plus petite, d'une façon très minime comparativement à l'offense qui leur est faite à eux. J'espère être à la hauteur et être capable d'avoir cette réaction, d'avoir ce réflexe plutôt presque naturel de dire « Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors, mon ami, mon frère, ma sœur, il est de ton devoir de prier en faveur de ceux qui te malmènent. C'est ton devoir. Et si la nation faisait des choses qui ne te plaisent pas, si la nation faisait des choses qui t'offensent, il est encore là, malgré tout ton devoir, de prier en faveur de la nation. Pourquoi? Parce que ton bonheur dépend du sien. Prions. Seigneur, encore une fois, aujourd'hui, tu nous exhortes. Tu nous exhortes à aller à l'opposé de ce que notre nature pécheresse, inique et mauvaise, nous propose. Tu nous exhortes à pardonner ceux qui nous offensent et à prier en leur faveur, à intercéder pour ta bénédiction sur leur vie. La plus grande bénédiction étant qu'ils te rencontrent, qu'ils se tournent vers toi et qu'ils te découvrent comme le Sauveur et le Seigneur que tu es. Seigneur, je prie que nous ayons ce réflexe d'intercession, ce réflexe de prière en faveur de ces milieux dans lesquels on peut être placé et qui nous sont opposés, que ce soit dans un voisinage, dans un cercle restreint, que ce soit, Seigneur, dans un cercle plus large, que tu nous aides, Seigneur, à pardonner, que tu nous aides, Seigneur, à aimer. Tu nous dis, Seigneur, que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres, que tous connaîtront que nous sommes tes disciples. Amour, Seigneur, envers ceux qui nous aiment, amour que nous devons avoir aussi envers ceux qui nous haïssent. Je prie, Seigneur, que nous soyons à la hauteur de cette même grâce que tu as témoignée envers nous, nous pardonnant de nos offenses et donnant ta vie avant même que nous ayons plaidé repentance, que nous ayons demandé pardon. Alors, Seigneur, parle à ma sœur, parle à mon frère, et puis continue, Seigneur, à nous former, à nous façonner, pour que nous puissions te ressembler à chaque jour davantage, dans ta compassion, dans ta grâce, dans ton amour. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors, demain, on est vendredi, c'est journée fériée, mais je serai là parce que je veux tout de même finir l'étude qu'on a entreprise cette semaine. Je pense qu'elle est importante et on aura aussi l'occasion de prier donc pour le Québec. Je rappelle que demain, c'est journée ou fête nationale pour les Québécois, pour le Québec. Alors, je prie effectivement qu'ils puissent nous utiliser pour bénir notre nation. Alors, que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Et on se retrouve demain matin. Au revoir tout le monde.